You trust him?
I do trust him, yeah. Now, will I come back to you in a year and you'll be interviewing? I'll say, gee, I made a mistake. That's always possible. You know, we're dealing at a very high level. A lot of things can change. A lot of things are possible. He trusts me, I believe. I really do. I mean, he said openly, and he said it to a couple of reporters that were with him, that he knows that no other president ever could have done this. I mean, no other he knows the presidents. He knows who we had in front of me. He said no other president could have done this. I think he trusts me, and I trust him.
Alors voilà, c'est une question de confiance, mais comme l'a dit le président américain, venez me revoir dans un an et on verra si je pouvais avoir véritablement la confiance de Kim Jong-un. Raphaël Jacob, évidemment, au-delà de ces images, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui.
Énormément de questions, Paul, à commencer par certaines des déclarations lancées par Donald Trump en marge de ce sommet historique, incluant celle qu'on vient d'entendre, à l'effet de quoi il a confiance en Kim Jong-un. Kim Jong-un a confiance en Donald Trump et le président américain en a même ajouté en disant qu'il croyait bien connaître, et là c'est une autre citation exacte, bien connaître le dictateur nord-coréen après cette rencontre de quelques heures. Il a également ajouté qu'il y avait selon lui une ferveur populaire en Corée du Nord pour Kim Jong-un, qui évidemment, on le rappelle, un des pires dictateurs de la planète. Donc c'était carrément ahurissant. En même temps, il faut quand même mentionner que c'est vrai que c'est historique et que c'est vrai que c'est positif. Évidemment que dans l'ensemble, il y a très, très peu de choses concrètes qui ont été signées hier. Il y a très peu, en fait, de progrès concrets qui ont été annoncés. Mais il reste qu'on a quand même eu un sommet entre deux dirigeants qui se menaçaient pratiquement de destruction mutuelle il y a de cela moins d'un an. Et on a quand même eu une entente conjointe qui est limitée, qui ne va pas particulièrement loin. Mais on a quand même une entente conjointe, un cadre conjoint signé par les deux dirigeants qui s'engagent essentiellement à éventuellement arriver vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Du moins, c'est l'objectif qui est annoncé. Et ça, ce n'est quand même pas rien et on doit le mentionner.
Oui. Évidemment, il restera à vérifier sur le terrain comment concrètement voudra dire la promesse de Kim Jong-un de participer à la dénucléarisation de la péninsule.
Et c'est là, Paul, que le bas risque de blesser. En fait, c'est là que le bas blesse déjà quelque peu, parce que les Américains voulaient vraiment insister sur l'insertion de deux mots en particulier dans tout accord qui serait signé par les Nord-Coréens, les mots étant ceux-ci, irréversible et vérifiable. Là, ces deux mots-là sont complètement absents de ce qui a été signé hier, et ce n'est pas par hasard, parce que, évidemment, pour que ça aille des dents, cet accord-là, il faut que ça soit vérifiable. Parce qu'on a un pays, on a un régime qui est tellement hermétique que c'est excessivement difficile de garantir à la base qu'on va justement sortir l'arsenal nucléaire entier. Il faut pouvoir le vérifier et il faut que ça soit irréversible dans la mesure où, évidemment, on veut éviter que ce soit un problème qu'on règle sur une base temporaire, mais qu'on doit régler à nouveau dans 10, 15 ou 30 ans. Donc, ça, c'est quand même pas évident. Une fois que tout ça s'est dit, Paul, avant de passer au prochain point, je veux quand même souligner le manque de cohérence absolument fulgurant de plusieurs commentateurs des deux côtés du spectre politique aux États-Unis. Parce que tu as des conservateurs américains, des républicains, qui vilipendaient Barack Obama pour son ouverture à Cuba et à l'Iran, qui aujourd'hui sont soit silencieux ou carrément qui vendent Donald Trump pour son ouverture à la Corée du Nord. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vantaient Barack Obama pour son ouverture à Cuba et à l'Iran et qui aujourd'hui essaient de trouver tous les bobos possible dans ce que Donald Trump a fait avec Kim Jong-un. Ça marche comme pas. Il y a vraiment un problème de cohérence. Si vous étiez pour l'ouverture face à des régimes qualifiés ou considérés comme des voyous ou des mauvais acteurs du système international et que c'était vrai avec Barack Obama au niveau de l'Iran et de Cuba, bien, force est de constater que vous devriez être conséquent dans vos opinions et avoir une opinion au moins un petit peu semblable dans le cas de Trump et à l'inverse, et bien l'inverse.
Alors, écoutons un extrait de celui dont on va parler dans un instant.
À quel moment avez-vous su que le gouvernement canadien lâchait les fermes laitières québécoises? À quel moment l'avez-vous su?
À toutes les tables auxquelles nous avons participé, le message a toujours été le même. Nous allons maintenir l'intégrité de la gestion de l'offre.
Alors, Raphaël, je ne sais pas si ça vous concerne directement.
Ça me concerne.
Oui.
Oui,
ça,
c'est vrai que c'est surprenant, Paul, peut-être à première vue, parce que j'ai pas l'habitude de faire jouer des extraits de la période des questions à l'Assemblée nationale du Québec dans ma chronique, mais je le fais ce soir, parce qu'il était question de gestion de l'offre. Et évidemment, ça survient pas dans un vase clos, ça survient à un moment où le président américain tire à boulet rouge sur les gouvernements canadiens et les gouvernements provinciaux au Canada pour, justement, ce fameux système de gestion de l'offre, en disant que c'est protectionniste, que c'est injuste pour les agriculteurs et les consommateurs américains. Et ce qui est absolument stupéfiant, Paul, c'est que je te parlais de manque de cohérence il y a à peine une minute dans un autre dossier. Bien là, tu en as un qui touche la classe politique québécoise entière. Je nous ai fait écouter un extrait du chef de l'opposition officielle ainsi que du ministre responsable au sein du gouvernement du Québec. Ce sont les deux partis principaux présentement à l'Assemblée nationale qui ont exactement la même position sur la gestion de l'offre, soit d'être farouchement pour. Ils la défendent bec et ongles et ce sont les mêmes partis qui sortent sur la place publique depuis des semaines pour attaquer l'administration Trump à cause de son protectionnisme. Ça ne marche pas, Paul. Je m'excuse, ça ne marche pas. Il n'y a à peu près personne qui soulève ça dans le débat public au Québec et au Canada, mais ça doit être dit. C'est vrai que les Américains subventionnent, mais ce n'est pas une excuse pour être protectionniste et simultanément critiquer le protectionnisme américain. À quelque part, il faut faire, je crois, de l'introspection. C'est toujours plus facile d'attaquer son voisin avant de regarder son propre nombril. Mais la classe politique et médiatique, soit dit en passant, pourrait gagner à peut-être se regarder un petit peu plus le nombril depuis ce fameux sommet du G7 à Charlevoix.
Alors, le Peter Navarro, le conseiller de Donald Trump, qui avait déclaré il y a une place spéciale en enfer pour Justin Trudeau, regrette ses propos. Un média américain dit qu'il s'excuse.
Ben oui, écoute Paul, je t'avais parlé hier du fait que le premier ministre canadien avait peut-être commis un faux pas en lançant les propos qu'il a tenus en marge du G7, mais qu'en même temps, ça n'excusait et ça ne justifiait aucunement l'ampleur de la réaction américaine, à commencer par celle de Donald Trump lui-même, mais touchant également certains de ses conseillers. Et je dirais que la sortie la plus remarquable, pour ne pas dire la plus loufoque qu'on avait vue, c'était celle de Peter Navarro, ce conseiller en matière de commerce qui était allé dire qu'il y avait un endroit spécial en enfer réservé pour Justin Trudeau. Là, après des heures de pression, notamment exercées par certains élus républicains à Washington, M. Navarro a présenté des excuses formelles à Justin Trudeau, chose que son patron, le président des États-Unis, n'a toujours pas fait. En fait, Donald Trump, lui, en a ajouté aujourd'hui, a continué à mettre de l'huile sur le feu en disant, et là je le cite, que les Canadiens allaient payer cher pour la gaffe, entre guillemets, de Justin Trudeau. Donc, écoute, il y en a qui essayent de calmer le jeu, il y en a qui, au contraire, semblent vouloir ajouter de l'huile au feu, et le président américain semble clairement présentement faire partie du deuxième camp.
Donald Trump aura 72 ans dans deux jours, mais aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire d'un des cinq présidents américains toujours vivants.
94 ans, Paul, pour le premier président Bush, George H.W. Bush, donc Bush père, qui, et ça, c'est quand même pas rien, on le mentionne, devient le premier président de l'histoire américaine à franchir ce stade-là. Il n'y a jamais un président américain dans l'histoire, mort ou vivant, qui a vécu aussi longtemps que 94 ans. Donc, on le souligne. Et sur une note un peu plus loufoque, ludique, mais quand même assez surréelle, je mentionne que Donald Trump vient, dans la dernière heure, d'émettre un autre tweet ne ciblant pas cette fois-ci le premier ministre canadien, mais plutôt l'acteur Robert De Niro, qui évidemment s'en était pris au président lors du week-end dernier.
On savait bien qu'il allait riposter.
C'était une question de temps. Et donc, il qualifie Robert De Niro d'individu, et là je le cite, au QI très bas, qui a reçu trop de coups à la tête de la part de boxeurs dans des films. Évidemment, on se doute que c'est une référence au film Raging Bull, dans lequel Robert De Niro joue un boxeur. Et donc, même Robert De Niro n'est pas à l'abri des tweets.
Non. Mais on s'en était parlé, Raphaël, on savait très bien qu'il allait répliquer coup pour coup. Et à la fin, il dit « Réveille-toi, l'économie n'a jamais été aussi bonne. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Les compagnies reviennent au pays. » Et il dit « Réveille-toi, punché. » Il l'appelle punché maintenant. Bon, voilà. Merci, Raphaël. À demain.
À demain.